Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Amen. Merci beaucoup pour la chorale, pour ces beaux chants, pour cet engouement pour la prière. Je crois que Dieu est en train de faire des nouvelles choses et on veut continuer de s'attendre à lui à travers la prière. Et je crois que la prière est efficace, hein, parce qu'aujourd'hui, on a une personne, ça fait très longtemps qu'on n'a pas revu, Tabitha. Hein, pour les plus anciens, hein, la fille de Nadine se rappelle qu'on a prié longtemps pour elle. Elle a vécu des situations comme chacun de nous. Et aujourd'hui, elle est revenue dans les mains du Seigneur. On peut l'applaudir, on peut remercier le Seigneur de ce qu'il fait. Dieu va chercher les jeunes, comme Gislain le dit. On a pu le voir justement, vous avez regardé des vidéos sur la marche pour Jésus justement en France. Plus de 20 000 personnes, dont la majorité c'était des jeunes, qui avaient à cœur la nation, qui avaient à cœur de se rassembler pour Jésus. Et donc, bientôt le 13, on va le faire aussi le samedi dans les rues. Montréal n'est pas encore arrivé sur Paris, mais l'année passée, on était autour des 3 000-4 000 personnes. Et on croit que cette année, encore plus, on a besoin de se rassembler, venir en famille, célébrer le nom du Seigneur, marcher dans les rues pour proclamer que Jésus reste le sauveur de ce monde. Amen. Amen. Et justement, on a encore une grande joie aussi, c'est que bientôt, on va pouvoir avoir deux personnes qui vont passer par le baptême, comme vous l'avez vu. Donc, le premier dimanche de juillet, on va sortir. On aime bien au moins une fois par année de sortir de notre bâtiment pour aller à l'extérieur. Donc, à peu près à 1 heure de Montréal, en bel endroit, on va faire un culte en plein air. Et ensuite, dans l'après-midi, on va baptiser deux personnes. Donc, ça va être une joie de pouvoir vivre ce temps tous ensemble en famille. Alors, réservez ce temps. Priez pour nos deux baptisés. Le Seigneur connaît les noms. Que le Seigneur puisse les encourager. Ce matin, j'aimerais continuer un peu par rapport à ce que nous avions discuté dans ces derniers temps. Nous parlions beaucoup justement du plan de ministère que nous avons présenté il y a quelques semaines, ce qu'on voulait faire dans notre Église. Vous savez justement que la prière est la base pour qu'on puisse avancer. Et nous avons mis en place un plan de ministère, c'est-à-dire un plan pour essayer d'aller de l'avant avec notre Église dans des objectifs, dans un plan qui permet de pouvoir développer, faire grandir l'Église dans plusieurs points. Donc, chaque domaine ou département une personne, durant ces prochaines semaines, va parler. Donc, les membres du comité ont pris une responsabilité de chacun un domaine, pour justement continuer à le faire grandir, à prier, à encourager les membres aussi à participer à travers ces départements, ces différents domaines. Est-ce que le Seigneur nous amène dans une nouvelle direction? Est-ce que le Seigneur nous amène dans une nouvelle étape? Et comme le Justin le disait, nous croyons que Dieu est en train de faire quelque chose. Vous savez, et on va le voir maintenant, que l'Église passe par des temps qui sont différents, des temps qui sont plus difficiles et des temps qui sont plus joyeux. Et c'est vrai qu'on aimerait tous en tant qu'Église de voir faire progresser l'Église, puis qu'elle rayonne, puis qu'elle se développe exponentiellement. Mais Dieu a son plan aussi. Et j'aimerais que ce matin, pendant qu'on regarde un peu c'est quoi notre vision, c'est quoi notre mission en tant qu'Église du Carrefour de Saint-Henri, de regarder un peu en arrière. J'ai été regarder un peu les chiffres en arrière pour regarder ce que le Seigneur a fait. Et pour les plus anciens, vous allez peut-être vous rappeler les années, ou peut-être pour certains, vous vous rappelez l'année que vous êtes arrivé dans l'Église. Alors regardons un peu, vous avez pu voir dans le plan de ministère qu'on avait une histoire depuis les années 89, quand il y a eu l'implantation d'Église. Mais depuis 89, il s'est passé plusieurs choses. Dans les années 89-95, il y a eu une implantation, l'Église s'est beaucoup développée. On me disait qu'il y avait presque une centaine de personnes dans l'Église, mais à un moment donné, il y a une situation qui est arrivée dans l'Église et il y a une division qui s'est passée. Et il restait quelques personnes, je veux dire la moitié peut-être de l'Église. En 95-2000, c'est là que je suis arrivé, donc quand on est arrivé avec Nicole ici au Québec, il y a eu le développement avec le ministère parmi les enfants. On avait un autobus jaune, on cherchait les enfants, plus de 100 enfants qui venaient dans cette salle-là pour louer le nom du Seigneur chaque vendredi, dont le 80% de ces enfants n'étaient même pas des chrétiens. Et donc, on voyait vraiment que Dieu était en train de vivre quelque chose de merveilleux au sein de l'Église à travers ce ministère. 2000-2002, il y a eu donc l'achat du bâtiment, c'est depuis 2000. Donc, l'année prochaine, ça va être le 25e anniversaire que nous avons le bâtiment. Dans les années 2000, il y a eu du tension dans le leadership. On a vu comment que l'ennemi continue d'amener un peu, des fois, du chaos, des tensions. Et l'église s'est vidée et il y a eu la démission du pasteur. Le ministère parmi les enfants s'est arrêté, a été donné à un autre ministère et on a vu petit à petit les gens partir de gauche à droite. Ensuite, en 2003-2008, il y a eu la reconstruction avec le pasteur Nathan. Le pasteur Nathan est arrivé ici au Québec. On l'a demandé de nous aider au lieu de simplement implanter des nouvelles églises, de aider ceux qui vivotaient. Et l'église, le pasteur Nathan a fait un très grand travail de réconciliation, de restauration avec des anciens membres qui sont revenus. Certains membres sont revenus à l'église. Il y a eu beaucoup de demandes de pardon. Et c'est dans ce temps-là que le pasteur nous a demandé de prendre aussi un rôle plus pastoral. Donc, j'étais avec lui pendant des années. Depuis 2008-2018, le pasteur Nathan s'est retiré un peu donc, de l'église pour faire d'autres occupations. Moi-même, j'ai repris donc un peu plus le rôle pastoral. On a vu vraiment un développement, on a vu l'arrivée de nouvelles familles de différentes contrées, et c'était vraiment un temps de reconstruction, de restauration qu'on a fait durant toutes ces années. En 2018-2019, il y a eu l'embauche de Jeanne comme adjointe, hein? Donc c'est quand même un pas parce que vous allez voir tout à l'heure que pour pouvoir même, je veux dire, avoir un salaire, il faut quand même avoir de l'argent. Puis ensuite aussi, en 2019 aussi, donc moi-même, j'étais aussi engagé par l'Église en tant que pasteur salarié. En 2019, on a aussi commencé à utiliser le nouveau nom du Carrefour de Saint-Henri dans le but de pouvoir aussi avoir plus d'impact aussi dans le quartier, de pouvoir voir que nous sommes un carrefour et que nous voulons que les gens, lorsqu'ils arrivent dans le carrefour, choisissent la bonne direction, c'est-à-dire la direction vers le Seigneur. Ensuite, 2020-2023, ben, il y a eu la pandémie, hein, on se rappelle tout ça. Il y a eu un certain essoufflement, découragement, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées dans notre église, mais aussi ailleurs. Et en 2024, donc, comme vous le savez, en cette année, on a désiré d'avoir une nouvelle étape avec ce plan de ministère. Donc, on voit toutes ces années, pour les plus anciens, de se rappeler peut-être d'où on vous est arrivé à peu près. On voit comment que, oui, l'Église a vécu des turbulences. L'Église a vécu des temps difficiles. Et c'est vrai que lorsque, en 2002 ou 2003, il y a eu des difficultés, il restait peut-être trois, quatre personnes. Et je me rappelle plusieurs fois que c'est arrivé deux, trois fois que le responsable de l'implantation ou développement de l'Église est venu pour, entre guillemets, pour fermer l'Église. Parce qu'il restait quelques personnes, les finances n'étaient pas là. Et chaque fois qu'il venait, il y a toujours plein de monde qui était là. Et qu'il arrivait, il disait, mais je ne peux pas fermer l'église si y a 15, 20 personnes qui sont là. Et chaque fois, donc c'est comme si Dieu disait, non, non, vous avez le plan des humains de fermer, mais moi j'ai un autre plan. Et là encore, on est encore des années plus tard, là. On peut vraiment remercier le Seigneur pour ses grâces et ses bontés. Amen. Pour ce que le Seigneur fait aussi. Maintenant, on va regarder, parce que c'est sûr que le développement de l'église va aussi en rapport avec, c'est sûr, le nombre de personnes qui viennent, mais aussi par rapport à nos finances. Et pour ceux qui se rappellent aussi, ben, dans les années, dans certaines années, dans les difficultés, ben, on a eu des gros problèmes aussi financiers. Regardez un petit peu, juste pour vous donner des chiffres, pour voir un peu comment que Dieu permet un développement. En 2002, on avait 38 300 de revenus, donc on avait encore une aide financière de l'Église de 9 000 $, 15 000 $ de loyer, 13 000 $ d'offrande. En 2003, on a eu 33 300 de revenus, dont 10 000 de location, donc on augmentait un peu location, et 6 100 d'offrande. Donc on voit qu'on a diminué. En 2005, c'était donc dans le temps un peu de la difficulté. En 2005, on arrive à peine à 10 000 $ d'offrande. Puis dans les années suivantes, on commence à augmenter année après année pour redescendre autour de 6 000 $ en 2008. En 2009, on a atteint et dépassé 10 000 $ et nous sommes restés dans cette moyenne durant plusieurs années. En 2015, on a atteint 13 000 $. Puis 17 000 $ l'année suivante. On a dépassé 20 000 $ en 2018 et 30 000 en 2000 ans, en 2021 avec les offrandes et dons spécifiques. Juste vous donner ces chiffres, c'est pour montrer comment que oui, on a besoin, comme on l'a dit aussi, de pouvoir soutenir aussi l'Église pour avancer, mais voir comment que on a eu beaucoup de difficultés, que même, pendant, je me rappelle, pendant une année et demie, on ne payait plus d'hypothèque. L'Église méthodiste à qui qu'on avait emprunté l'argent pour acheter le bâtiment, on n'avait plus assez d'argent, donc ils nous ont fait congé pendant une année et demie d'hypothèque parce qu'on n'était plus capable, on n'avait pas assez de revenus. Mais Dieu a permis que les choses se mettent en place. Dieu a permis que Dieu a fait un travail en chacun de nous. Donc, si je vous parle de ces chiffres et de cet historique, c'est pour nous rappeler d'où nous venons et les grâces et les bontés que Dieu a permis qu'on ait pour avancer, pour mettre là où on est aujourd'hui. C'est important de se rappeler d'où on vient, afin de voir tout le chemin parcouru. C'est la même chose pour notre vie. On a besoin, des fois, de temps en temps, d'aller regarder en arrière pour dire, Seigneur, regarde tout ce que j'ai vécu. Je regarde il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, et je te remercie parce que tu m'as gardé sur le chemin. Tu m'as permis que malgré les turbulences, les bouleversements dans ma vie, tu m'as permis d'aller de l'avant. Certaines personnes vont dire, ah, mais on va pas assez vite, l'Église grandit pas assez vite, l'Église fait pas assez d'activités, toutes sortes de choses. C'est vrai qu'on aimerait faire encore peut-être plus, mais lorsque je regarde toute l'histoire de l'Église, quand je regarde toutes les turbulences qu'elle a vécues, je peux que remercier Dieu que nous avançons vers l'avant et qui nous permet de voir encore de plus en plus ses bontés qui se déversent sur nous et sur l'Église. Ça ne sert à rien d'aller trop vite. Dans les premières années, je pense qu'on était des fois trop vite. On était trop vite et on n'a pas été capable de discerner les attaques de l'ennemi. Il y a eu deux divisions dans l'Église. Et je me rappelle dans la deuxième, parce que j'étais présent, comment ça a eu fait du mal. J'ai vu des gens partir en pleurant. Et je dis, Seigneur, ce n'est pas possible. Comment ça se fait que normalement, on vient à l'Église comme ce matin, on est dans la joie et qu'il y a des gens qui partent de l'Église en pleurant? Et je sais que malheureusement, beaucoup de ces personnes, plusieurs de ces personnes, ne sont plus avec aujourd'hui avec le Seigneur, ou peut-être vivotent dans leur relation avec le Seigneur. On a besoin de construire l'Église, le corps du Christ, non pas avec nos arguments, avec nos stratégies, avec nos plans, mais avec le plan de Dieu. Et c'est vrai que des fois, c'est difficile. C'est vrai qu'il faut se battre. Mais si on regarde, Dieu est présent. Dieu fait de grandes choses. On a pu voir dans ces dernières semaines les lettres de l'Apocalypse. Rappelez-vous, hein, de ces 7 lettres que Jean a rapportées que l'Esprit de Dieu lui avait données. Et à chaque fois, Dieu va leur dire, mais faites attention, je vous reproche, changez, changez, revenez où était avant. Écoutez les paroles que je vous dis. Il y a cet avertissement qui est toujours là pour chacun de nous. Donc même si peut-être on a l'impression que peut-être ça va mieux, ou même dans notre propre vie, il faut toujours faire attention, il faut toujours discerner. Et je crois que la prière permet justement de discerner si l'ennemi est en train d'attaquer. Lorsque ça va trop bien, c'est là que l'ennemi vient. C'est lorsque on baisse un peu notre garde parce qu'on a l'impression que tout va bien, qu'on est béni, qu'on est encouragé dans notre vie personnelle, que aussi à l'Église, c'est là que l'ennemi vient et d'amener de la discorde ou d'autres choses. Alors, prochain dia, quelle est notre vision, quelle est notre mission à l'Église Carrefour de Saint-Henri? Avant d'aller plus en détail, j'aimerais vous expliquer la différence entre vision et mission et valeur, parce que des fois, le mot est mal compris, mais c'est pour qu'on puisse comprendre pour nous aussi, mais aussi en tant qu'Église. Si vous regardez sur le tableau, il y a comme trois rangs qui se chevauchent, hein. Donc, il y a le rang en dessus qui est notre mission qui forme notre présence. Donc, nos missions de ce qu'on va faire, on va voir tout à l'heure aussi à travers la parole, qu'est-ce que ça veut dire d'être en mission. Dans le rang de gauche, on a notre vision qui raconte notre futur. On va l'expliquer un peu plus chacun qui fait qu'est-ce qu'il fait après. Ensuite, le troisième à droite, nos valeurs fondamentales qui nous montrent le chemin, nos valeurs qui nous tiennent à cœur, qu'on veut s'accrocher. Donc, ces trois rangs, ces trois se chevauchent parce qu'on en travaille les uns avec les autres. Des fois, on va travailler plus sur la mission parce qu'on a besoin de le faire. Des fois, c'est sur nos valeurs ou sur notre vision. Et on va voir tout à l'heure comment que on a besoin d'avoir ces trois rangs qui travaillent ensemble. On a besoin d'avoir ces trois termes, sujets qui vont de l'avant, autant pour nous personnellement en tant que chrétiens, mais aussi en tant qu'Église. Chacun de nous, on a une vision de ce qu'on aimerait notre vie. On a tous aussi une mission qu'on aimerait accomplir, un travail qu'on aimerait accomplir sur cette terre. Et on a tous aussi des valeurs qui sont essentielles pour nous. Donc, regardons chacun de ces trois termes. Prenons le prochain dia. Si on prend le mot valeur, donc, comme il est écrit, les valeurs sont les convictions essentielles, bibliques et passionnées qui déterminent ce que vous faites et ce qui caractérise votre ministère. Donc, on sait que dans le passé, les valeurs chrétiennes étaient présentes dans la société. Les gens, ben, même avant, hein, il y avait dans l'école, on priait le matin, dans chaque maison, il y avait aussi ce recueillement, on allait à l'église le dimanche, etc. Donc, il y avait ce désir de vivre les valeurs de Dieu. Même si peut-être des fois, il y avait une certaine obligation, une pression peut-être par l'Église d'aller à l'Église, de faire les choses de Dieu, mais les gens connaissaient les valeurs de Dieu, connaissaient la parole de Dieu. Alors, ils pouvaient choisir si oui, ils acceptaient le salut de Jésus ou ils le refusaient. Mais aujourd'hui, quand on parle avec les enfants, avec les adolescents, ils n'ont pas vécu ce moment. Ils vivent dans un contexte tellement différent où tout est accepté comme bien, où tu fais tes propres valeurs, tes propres définitions de ce qui est bien et du mal. On appelle ça, on est dans la société postmoderniste. C'est-à-dire que tout est relatif à toi, selon ton propre schéma que tu fais. Tu te fais tes propres vérités. Si toi, tu trouves que c'est une vérité pour toi, tu le fais. Si les autres ne le trouvent pas, tu t'en fous des autres. Il n'y a plus vraiment. Donc, voilà pourquoi qu'aujourd'hui, lorsque tu approches une personne qui connaît pas Dieu et que tu dis, dans la Bible, la vérité de Dieu, c'est ceci, lui va te dire, mais moi, ta vérité, là, pour moi, ce n'est pas une vérité. Pour moi, c'est juste peut-être, c'est ta vérité à toi, mais moi, j'ai une autre vérité. Donc, on n'arrive plus, on n'est plus vraiment aussi dans la même ligne avec les personnes autour de nous. Les gens rejettent ces vérités absolues et ils veulent avoir leur propre croyance. Mais les jeunes ont une soif de vivre. Ils veulent savoir pourquoi ils sont sur Terre. Ils ne veulent pas passer leur dire leur vie comme peut-être leurs parents dire, ben moi je suis né, je grandis, puis maintenant je dois travailler pour gagner la vie, je dois payer les impôts pour la société, faire comment dire, un peu une routine quotidienne, mettre au boulot dodo. Ils veulent autre chose. Et on voit comment que les jeunes ont soif de découvrir Dieu d'une façon nouvelle, différente. Et des fois que ça nous surprend, des fois on est un peu choqué. Voilà pourquoi que des fois, malheureusement, dans beaucoup d'églises, il y a comme une séparation entre les jeunes et la génération suivante. Les jeunes veulent vivre quelque chose de différent. Même ma propre fille me dit, ben, tu sais, papa, des fois, tes prédications, c'est plate. OK, bon, OK, merci, merci de ce que tu dis. Mais elle veut que puis quelqu'un commence à parler, puis je lui dis, mais c'est exactement ce que je fais. Non, 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 mais toi, tu fais différemment. Les jeunes veulent vivre quelque chose de différent et on doit écouter nos jeunes, on doit écouter de voir pour pouvoir que ce n'est pas juste l'Église de demain, mais c'est l'Église d'aujourd'hui, de pouvoir aussi les aider à grandir, à avoir leur place dans l'Église. Voilà pourquoi qu'aujourd'hui les méthodes d'évangélisation y changent. Voilà pourquoi qu'on ne peut plus faire comme avant parce que les jeunes ou les personnes aujourd'hui ne veulent pas entendre parler de Dieu de la même façon. Mais il y a un besoin, il y a un besoin. Je reçois des nouvelles d'un ministère. Qui travaillent. Leur objectif, c'est de visiter 1 000 villes, 1 000 villages au Québec d'ici à peu près 5 ou 10 ans. Ils sont déjà à 700 villages. Ils font du porte-à-porte et leur but, c'est de pouvoir préparer les gens à la prévention du suicide. Pourquoi? Parce que le responsable directeur de ce ministère, c'était un pasteur que je connaissais, il a perdu son fils par suicide. Son fils, qui était chrétien, à un moment donné, s'est suicidé. Et ça l'a tellement bouleversé, puis il s'est retiré du ministère, puis il a dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Et Dieu l'a préparé à dire, maintenant, tu vas partager ce que tu as vécu toi et ce que ton fils a vécu aussi aux autres. Et il sonne aux portes et il ne s'annonce pas comme chrétien, il s'annonce dire, on est là pour parler du suicide. Il écrit des livres et petit à petit, si les gens sont ouverts, il leur parle de Dieu. Et il nous raconte comment il y a des conversions, il y a des gens qui sont touchés. Dieu est en train de faire un travail au Québec. Alors oui, nos valeurs peut-être changent, les valeurs de société changent, mais on a besoin de garder nos valeurs essentielles. Ouvrons notre Bible dans Matthieu chapitre 22. On connaît très bien ce texte, Matthieu chapitre 22, versets 37 à 40, qui nous parle des deux commandements que Jésus a dit les plus importants. Et Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et il y a un second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'enseigne la loi et les prophètes est contenu dans ces deux commandements. Donc le Seigneur nous a donné des valeurs essentielles pour notre vie, elles ne changent pas. Aujourd'hui encore, ce commandement d'aimer notre Dieu de tout notre cœur, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, on a besoin de le faire. On a besoin de voir que Dieu continue d'agir. Donc ces valeurs que nous avons d'aimer Dieu ne changent pas, restent là. Et on a un exemple de la Bible, d'un personnage qui a gardé ses valeurs malgré tout ce qui s'est passé, comme on peut le voir dans Genèse chapitre 39. Rappelez-vous de l'histoire de Joseph. Joseph qui avait vu une belle vision de rêve qui disait que ah, ben, tous ses frères et ses parents allaient se prosterner devant lui. Et il a voulu le raconter pour peut-être, ben, parce qu'il croyait qu'il avait besoin de le raconter à ce moment-là. Et ses frères qui étaient jaloux l'ont vendu comme esclave. Mais Joseph, même quand il était justement dans cette famille en tant qu'esclave. Même plus tard, comme lorsqu'il a été injustement condamné à rester en prison, ses valeurs de Dieu sont restées. Et pendant les 2 ans qu'il est resté en prison, il doit dire, mais Seigneur, tu m'as oublié. La vision que tu avais pour moi, la vision que tu m'as montrée dans le rêve, où est-ce qu'elle va se réaliser? Mais Dieu était en train de préparer Joseph aussi, pour qu'il puisse être juste prêt lorsque arrivera le temps. Joseph a pu crier, se révolter contre Dieu, abandonner ses valeurs. Mais même dans la prison, il a attendu la réalisation de la vision que Dieu avait pour lui. Donc il faut premièrement que ces valeurs essentielles qui est d'aimer Dieu et son prochain soient en nous comme quelque chose de gravé sur notre front, gravé dans notre cœur. Nous ne pouvons pas changer ces valeurs. Même si la société aujourd'hui dit ben, il faut abandonner Dieu, c'est quelque chose d'arriéré, ce n'est pas intéressant, notre valeur reste. Nous devons les enseigner à nos enfants. Nous devons les pratiquer jour après jour. Ces valeurs que nous croyons justes vont générer de l'émotion, de l'énergie, qui va nous permettre justement de faire une mission. Alors voilà justement, prochain dia. Lorsque nous avons ces valeurs, ben on a une mission. On a une mission de mettre ces valeurs aussi en action. Alors quelle est notre mission sur Terre? Quelle est notre mission en tant qu'être humain, en tant que chrétien? Je crois que chacun de nous, on sait un peu ce qu'on aimerait dans notre vie, on aimerait aller. Et si vous regardez un peu plus loin, ouvrez notre Bible dans Matthieu chapitre 28, versets 18 et 20, on connaît très bien aussi la grande mission que Jésus a donnée quelque temps avant qu'il retourne vers son Père. Il dit, allez donc dans le monde entier, faites des disciples de parmi tous les peuples, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Donc, cet ordre de mission, Jésus nous l'a laissé avec des objectifs, des directions qui sont claires pour notre mission sur Terre en tant que chrétien. Donc, on va regarder un peu plus près ce texte pour voir qu'il y a deux choses importantes. La première, Jésus va dire, allez, faites de toutes les nations. Donc, ça veut dire que nous devons aller vers l'extérieur, aller dans les endroits les plus reculés et prêcher la bonne nouvelle. C'est ce que le Seigneur nous demande. Mais nous ne sommes pas tous appelés d'aller dans les plus loin, pays reculés. Aujourd'hui, nous avons la chance à Montréal d'avoir que des gens viennent de différents milieux habiter ici à Montréal. On parle ici de Montréal qui a plus de 200 ethnies, de cultures différentes. Donc, on n'a pas besoin, entre guillemets, d'apprendre toutes les langues des pays pour se faire comprendre. Les gens viennent ici, ils apprennent le français et l'anglais et on peut leur parler. Il y a des gens d'Amérique du Sud, de l'Afrique, de l'Asie, de l'Europe qui sont à nos portes. Et on a besoin simplement d'aller vers eux. Notre mission n'est pas un désir que Jésus nous a donné. Ce n'est pas dire, ben, si vous êtes intéressé, allez faire des disciples de toutes les nations. Non, il a dit, c'est un ordre. C'est un ordre. Jésus veut encore aujourd'hui que le Carrefour Saint-Henri et chacun de nous, nous puissions répondre à cet appel. Que notre témoignage, jour après jour, qu'on soit au travail, dans notre voisinage, avec nos amis, il est primordial de parler, de partager, de vivre après jour après jour notre foi avec les autres. La deuxième chose que nous voyons dans ce texte, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Un disciple, comme on sait, c'est une personne qui suit un enseignement, une doctrine qui est par notre personne ou son maître. Donc, un disciple, on sait qu'on a pu voir les disciples qui ont suivi Jésus pendant 3 ans. Il a appris à travers Jésus ce que Jésus voulait apporter comme valeur, comme mission, comme vision. Et ensuite, ils ont accompli ça à travers l'Église. La mission n'a pas changé. Elle a besoin d'être reprise par chacun de nous encore aujourd'hui. Dans la conviction que Jésus peut encore transformer des personnes, ici à Montréal, ici dans le quartier de Saint-Henri, ici dans nos familles, dans nos propres familles, aussi parmi nos enfants. Jésus ne va pas le faire par lui-même. C'est vrai qu'il peut le faire. Il y a des conversions qui se font directement sans que l'aide des personnes. Mais Jésus veut nous faire rentrer dans ce grand travail de la mission pour que nous puissions agir aussi avec lui. Alors, est-ce que nous allons répondre à cette mission? Est-ce que nous allons être des ambassadeurs? Est-ce que nous allons être des communicateurs de cette bonne nouvelle que Jésus nous a donnée? Mais on a besoin de savoir où cette mission va aller. On a besoin de savoir où cette mission va aller à court terme et à long terme. Et voilà pourquoi que la vision rentre en ligne de compte. Une définition de la vision, c'est la vision est une image claire, attrayante de votre futur anticipé qui peut et doit être réalisé. Une image claire de votre futur, De savoir, OK, moi, je veux aller à telle place. Lorsque vous étiez jeune, lorsque vous avez commencé à vous former, vous saviez dire, ben moi, je veux faire tel métier parce que j'ai envie de devenir un médecin, je veux devenir un ingénieur, j'ai envie de travailler avec des personnes dans les hôpitaux. Vous aviez une vision claire de l'image que vous voulez faire. Donc, c'est une image de votre futur, mais vous prévoyez déjà à le faire. Vous prévoyez, vous allez dans cette direction. Proverbe chapitre 20, verset 29, verset 18, qu'on connaît très bien. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Ou dans d'autres versions, il est dit que le peuple vit dans le désordre ou se laisse aller. Donc, on sait que dans la Bible, la vision est souvent liée au prophète qui recevait des rêves, des songes par le Seigneur, des paroles ou des images pour illustrer le fait, pour avertir le peuple de leur péché, pour donner des indications sur l'avenir. Et on le voit justement à travers la vision de Joseph. La seule chose, le problème de Joseph, c'est qu'il avait reçu cette vision, mais il a voulu la partager d'une façon un peu orgueilleuse. Hein? Moi, le petit jeune, vous allez un jour tout mettre à genoux devant moi. Hein? Si un jour je vous dirais ça, ben moi, pasteur Philippe, un jour vous allez vous mettre à genoux devant moi, vous allez dire, mais pasteur, là, écoute, t'es pas mal égoïste, t'es pas mal orgueilleux. Mais c'est un peu c'est ce que Joseph a dit. Et voilà pourquoi que ses frères étaient jaloux. Mais la vision était là pour Joseph. Et il a continué de croire que cette vision était là, même quand il était en prison. Et Dieu, à un moment donné, s'est révélé et il est sorti de prison. Je lisais un texte, il disait que, il se posait la question, pourquoi que Joseph est resté 2 ans en prison? Il disait, si Joseph était sorti de prison, parce que rappelez-vous qu'à un moment donné, il a révélé à 2 personnes qui étaient proches du pharaon, celui qui goûtait les boissons, celui qui faisait le pain, qu'ils avaient fait une mauvaise... un problème avec le pharaon, puis ils les avaient mis en prison. Il y en a un des deux qui a été remis à sa place. Et puis Joseph a dit, quand tu vas être remis vers le pharaon, n'oublie pas de parler de moi pour que je sorte de la prison. Et la personne réfléchissait, mais si Joseph serait parti avant, peut-être qu'il aurait voyagé, il serait parti dans le pays, comment est-ce qu'on aurait pu le retrouver, hein? À ce moment-là, il n'y avait pas des cellulaires, hein? Il n'y avait pas... Donc, c'était beaucoup plus facile. Je ne dis pas forcément que c'est ça, mais il réfléchissait. Quand il était en prison, c'est beaucoup plus facile d'aller le chercher. Et ça demandait aussi un pas de foi de plus du pharaon de prendre une personne dans la prison pour l'élever au deuxième rang plus grand du royaume. Joseph avait cette vision. Et on a besoin de voir aussi cette vision comme le Seigneur. Mais avant d'aller voir la différence, on veut voir la différence entre la vision et la mission. Parce que souvent, il y a une confusion entre ces deux termes. Alors, je vais vous montrer un petit tableau qu'on utilise souvent aussi à l'Église méthodiste du Canada. Donc, si vous voyez sur l'écran, il y a comme un exemple de tir à l'arc. Donc, on voit qu'il y a une cible et qu'on voit aussi justement une flèche qui va au milieu. Donc, pour pouvoir atteindre l'objectif du milieu, on a besoin de 3 choses. Donc, vous voyez dans cette flèche, la première, c'est les valeurs. Donc, les valeurs, ça représente les plumes. Quand il y a une flèche, pour ceux qui font le tir à l'arc, vous savez que derrière, il y a des plumes. C'est pour permettre que la flèche aille tout droit. Parce que sinon, si vous mettez juste un bâton puis vous lancez, la flèche va dans n'importe quel sens. Avec les plumes, ça stabilise pour que la flèche puisse vraiment aller jusqu'au bout. Ensuite, la mission. Donc, la mission, c'est de faire ce que la vision nous demande, d'aller de l'avant. Donc, la mission nous permet, c'est comme la flèche qui nous permet d'aller jusqu'au but. Et ensuite, nous avons la vision, c'est la cible qui est à viser. Donc, on a besoin que les plumes sont comme les valeurs qui nous guident. Ces valeurs fondamentales que, en tant que personne, en tant que chrétien, vont nous guider vers le but que Dieu veut nous fixer. Mais pour arriver, justement, il faut une mission, comme on l'a vu précédemment, une mission qui forme notre présent, qui permet de savoir qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui et demain. Donc, la mission est comme la flèche qui va mener vers la cible. Et c'est ces missions qui nous poussent à travers nos valeurs d'agir pour faire la mission que Dieu nous donne. Et nous avons une cible, c'est-à-dire un but à atteindre. C'est la vision, la cible à viser. Il faut une vision à court terme, de 2, 3 ans, une vision à long terme. Quand vous avez commencé à vous étudier, ben vous aviez une vision à long terme. Peut-être ça prenait 3, 4 ans, 5 ans d'études. Mais vous avez aussi une vision à court terme. Qu'est-ce que je fais demain? Qu'est-ce que je vais faire aussi par rapport à ma propre vie personnelle? Donc, on a besoin, comme cette illustration qu'on voit sur le tableau, d'avoir une idée claire de la vision que Dieu veut pour nous, de comment de la mettre en pratique à travers la mission et avec les valeurs que nous avons de notre Seigneur. Alors, prochain dia, dans ma vie personnelle, quelle est ma vision? face au travail, face à la famille, face à Dieu, face au ministère. Toutes ces questions que les gens doivent se poser au moins une fois dans leur vie. Notre vision de la vie, de ce qu'on aimerait faire, doit être claire. C'est important que cette vision de notre vie personnelle ne soit pas juste une vision pour nous-mêmes, pour nos propres projets, pour nos propres rêves. Je ne dis pas forcément que ce n'est pas bon, mais trop souvent, des fois, on voit, bien, c'est sûr, chacun de nous en tant que jeune, des fois, on a dit, ben moi, mon rêve, ma vision, c'est de devenir médecin. Et puis, c'est bon, mais on sait que peut-être 6 ans, 7 ans, 8 ans d'études, et on voit que beaucoup de personnes qui, à un moment donné, abandonnent, lâchent ou se dirigent vers une autre vision peut-être différente. Si votre vision, c'est de faire de l'argent, de monter une entreprise, de bien gagner leur vie, de votre vie, ça peut être un but louable. Mais au fond, est-ce que c'est juste pour faire de l'argent, pour gagner beaucoup d'argent, pour avoir une entreprise que vous êtes né sur cette terre ou c'est pour glorifier Dieu à travers ce travail? Trop souvent, on connaît dans notre vie, on connaît la mission que Jésus nous a donnée, mais on développe notre propre vision sans forcément mettre Dieu en premier. Nous voulons atteindre nos objectifs personnels, nos rêves, avant de réaliser ceux de Jésus, notre Sauveur. Joseph a accepté ses souffrances. Il n'a pas dérogé à ses valeurs qu'il a prises, adoptées dans sa jeunesse. Et ça a pris plus de 2 ans en prison avant qu'il voie les réalisations de ses visions. Dieu a récompensé la fidélité de Joseph et a permis que sa famille, qui allait devenir le peuple de Dieu, puisse être sauvée de la famine. Donc la réalisation de nos rêves, de nos visions que Dieu nous a données peut prendre des années, mais il faut persévérer. Et si c'est le Seigneur qui nous l'a donnée, alors elle va s'accomplir au temps voulu. Parce que Dieu sait et connaît tout ce que de notre vie. Pour l'Église aussi, le Seigneur a aussi un plan clair de ce que nous devons faire. Comme la phrase qu'il a dit sur l'écran, l'Église est le peuple de Dieu sur la mission de Dieu. L'Église est le peuple de Dieu sur la mission de Dieu, pas sur la mission de l'homme, pas sur la mission d'un pasteur. L'Église est censée être conduite par l'Esprit avec une vision et un but pour accomplir la mission de Dieu là où il vous a placé. L'Église doit être conduite par l'Esprit de Dieu, avec une vision, un but que Dieu nous donne pour accomplir la mission, comme nous l'avons vu tout à l'heure, avec cette grande mission que Jésus nous a laissée. Nous devons construire et surtout établir l'Église pour ces prochaines années, 10 prochaines années, 15 prochaines années. Il faut que l'Église puisse progresser afin que les hommes et les femmes puissent encore découvrir le salut, puissent continuer de devenir des véritables disciples de Jésus-Christ. Prochain diable, vous connaissez donc nos 4 valeurs que souvent nous récitons aussi. On connaît ces valeurs qui est le refuge, la famille, la valorisation et le partage. Hein? Le refuge, donc, accueillir les gens tels qu'ils sont, quel que soit leur cheminement, quelle que soit leur croyance. Après, ensuite, de vivre la famille, de vivre cette connexion de famille, de pouvoir tisser des liens fraternels, de s'encourager mutuellement. La valorisation, elle permet de justement d'être valorisé, d'être encouragé à travers les dons, à travers le service auprès du Seigneur. Et le partage, c'est-à-dire de partager notre témoignage, de partager aussi auprès de la communauté ce que le Seigneur nous donne. Donc, si on regarde du côté de la mission, l'Église a aussi une énoncé de mission, qui est dire une Église accueillante et dynamique pour encourager chacun à rencontrer Dieu et approfondir une relation saine avec Jésus-Christ, tout en apportant un témoignage d'amour et d'impact auprès de la communauté. Donc, c'est une simple phrase, mais qu'on voit dans cette phrase comment qu'elle regroupe les 4 valeurs. Une Église accueillante et dynamique pour le refuge, pour approfondir une relation saine avec Jésus-Christ, avec les autres, la famille, pour apporter un témoignage d'amour, pour approfondir une relation, la valorisation, pour témoigner cet amour d'impact auprès de la communauté qu'on retrouve à travers le partage. Alors, si nous regardons du côté de la vision, c'est vrai que la vision de l'Église est restée à peu près la même dans toutes ces années. Mais peut-être qu'aujourd'hui, on a besoin peut-être de la redéfinir. Parce que l'Église, le visage de l'Église a changé depuis des années. On a différentes personnes qui viennent de différentes cultures, de différents milieux. Et voilà pourquoi qu'on a besoin de prendre le temps. Voilà pourquoi qu'on a besoin de vos prières pour continuer de prier, comme on l'a dit ce matin, de prier pour dire, Seigneur, quelle est la vision que tu as pour 2024, 2025, 2025, 2026 pour l'Église, pour que nous puissions répondre à l'appel que tu nous as donné. Vous savez, l'Église, c'est chacun de nous. Donc, l'Église va à la vitesse que aussi les membres vont aussi avec leur temps, leur relation avec le Seigneur. La vision que nous avons sur notre vie va déterminer aussi une partie de la vision de Dieu sur l'Église. Donc, si nous sommes prêts à travailler à cette vision que Dieu nous donne, alors nous allons la mettre en pratique et nous allons voir comment que l'Église va continuer d'avancer. Voilà pourquoi que cet été, je prends ce temps sabbatique. Une des raisons, c'est justement dire, Seigneur, c'est quoi la prochaine étape pour l'Église? Et pour cela, j'avais besoin de me retirer. J'avais besoin de sortir un peu de tout mon travail quotidien dans l'Église ou ailleurs pour dire, Seigneur, je veux rester à ton écoute. Je veux prendre plus de temps. Je veux comme me décharger un moment, les confier l'Église au leader, au pasteur Herman et au leader de l'Église, puis de prendre, rester à ton écoute. De rester à ton écoute pour que tu puisses me montrer aussi quelle est la vision. Je ne dis pas que forcément que la vision va venir uniquement de moi. Je crois aussi que les leaders ont aussi leur part de responsabilité là-dedans. Mais Dieu permet que je puisse prendre ce temps pour avancer. Ou comme on a dit en 2025, donc dans une année, au moins d'une année, ça va faire 25 ans que nous avons acheté ce bâtiment. Et on désire faire une grande fête, on veut continuer encore de l'améliorer pour pouvoir que ce bâtiment puisse glorifier Dieu. Et on croit que pour le moment, le bâtiment est utilisé, mais pas utilisé encore à sa pleine capacité. Et on veut dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Tu nous as donné ce bâtiment, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse aussi avec? Oui, on se rassemble, oui, on loue le Seigneur, on se rassemble pour des activités, mais est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu veux aussi faire pour ce bâtiment? Alors, pour terminer, ouvrons notre Bible dans Éphésiens, chapitre 3, versets 20 à 21. Éphésiens, chapitre 3, versets 20 à 21. Donc, nous devons garder les yeux fixés sur la cible à atteindre, sur ce que le Seigneur veut nous montrer le chemin et qui veut nous guider pour être témoins là où il nous place. Alors, Éphésiens chapitre 3, versets 20 et 21 dit, à celui qui, par la puissance qui nous agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations et pour l'éternité. Amen. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, la puissance de l'Esprit de Dieu qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous demandons, même pensons dans nos prières. Seigneur, je désire telle chose dans ma vie, mais je m'attends encore plus, je m'attends encore plus de grâce, je m'attends encore plus en chemin clair, je m'attends à ce que l'Église encore plus vive encore des grâces nouvelles avec toi. À lui soit la gloire dans l'Église. Seigneur, l'Église. Pour ta seule gloire, pas pour la gloire du pasteur, pas pour la gloire de ce que l'Église est capable de faire. Non, l'Église pour la gloire de Jésus-Christ et pour toutes les générations, pour toutes les générations, autant les générations qui montent, nos enfants, nos jeunes, nous devons prier pour que ces jeunes puissent rentrer dans l'Église et puissent amener l'Église peut-être un changement nouveau, même si peut-être ça nous dérange, mais Dieu fait avec l'Église depuis plus de 2000 ans. Et Dieu continue à travailler à travers l'Église. Alors, courbons notre tête et prions. Remercions le Seigneur ce matin, quand on regarde tout le parcours que nous avons vécu en tant qu'Église. Remercions le Seigneur aussi pour le parcours que chacun de nous vivons aussi dans notre propre vie. Aujourd'hui, vous êtes, même si peut-être vous vivez encore des difficultés, des bouleversements, mais vous pouvez voir comment que Dieu vous a conduit, comment que Dieu vous a tracé un chemin. Comment que Dieu vous prépare pour une mission spécifique. Il veut encore vous donner une vision claire de ce qu'il attend de vous, pour que vous soyez des témoins de Jésus, là où il vous place. Comme ce verset le dit, la puissance du Saint-Esprit peut réaliser infiniment là, au-delà de ce qu'on peut penser, imaginer. Alors, priez, Seigneur, ce matin. Seigneur, je veux avoir un grand rêve. Je veux avoir une grande vision. Je ne veux pas faire des choses grandes pour moi-même. Je ne cherche pas à être un footballeur super réputé ou quelqu'un qui est reconnu par toute la société. Non. Moi, je veux être une personne, un homme, une femme, un jeune qui te glorifie à travers ma vie. Je veux que des hommes et des femmes, lorsqu'ils me rencontrent, lorsque je parle avec eux, puissent voir comment que tu agis en moi, comment que tu continues de travailler. Je veux continuer que ces valeurs que j'ai de toi puissent continuer à être le fond solide de ma vie. Malgré tout ce que j'entends à gauche, à droite, malgré tout ce que le monde me propose comme alternative, comme valeur, je veux garder mes valeurs, les valeurs que tu as, donc que je trouve dans la parole de Dieu. Et je veux avancer avec toi. Je veux réaliser la mission que tu m'as confiée. Alors, si nous sommes ouverts, si nous sommes prêts à dire, Seigneur, laisse que je laisse ma vie entre tes mains, le Seigneur va vous montrer votre vision, va vous montrer votre mission personnelle. Peut-être que vous l'avez déjà reçue, peut-être que Dieu veut vous la reconfirmer, peut-être que Dieu va changer un peu la vision parce que ça arrive que des fois Dieu utilise différents chemins pour nous amener là où il veut. Lui sait exactement où il veut, mais des fois il nous amène juste une partie du plan. Mais Dieu veut faire au-delà de ce qu'on peut penser et imaginer. Il veut faire de grandes choses. Alors prions pour nous. Prions pour que l'Église puisse continuer d'être ce porteur de cet évangile. Prions pour que le carrefour de Saint-Henri puisse continuer de glorifier Dieu à travers chacun de nous, à travers ce qu'elle va accomplir pour Dieu. Seigneur, on te remercie ce matin pour ce rappel que tu nous donnes de pouvoir voir comment que Seigneur, la vision que tu as pour l'humanité reste la même. Tu veux sauver, tu veux racheter chaque personne pour qu'ils puissent goûter à ta grâce, pour qu'ils puissent avoir le salut de leur âme, pour qu'ils puissent un jour te rencontrer avec les différentes personnes, différentes cultures, à travers les âges qui t'ont rend aussi aimé, qui t'ont rend aussi accepté. Tu nous donnes une mission aujourd'hui. Tu donnes une mission pour demain. Tu nous as placés ici à Montréal pour une mission. Il n'y a pas de hasard avec toi, Seigneur. Il n'y a pas de choses qui ne sont pas programmées. Tu avais un plan. Seigneur, même si nous ne le comprenons pas toujours, aide-nous à voir que ce plan que tu veux réaliser, donne-nous cette mission. Permets que nous puissions continuer de être ce témoin de toi, là où tu nous places. On a besoin, Seigneur, on a besoin encore que tu nous clarifies ce que tu veux faire pour chacun de nous. On a besoin d'un coup de pouce par ton esprit pour, comme ce texte que nous venons de lire, de croire par la foi que tu veux faire au-delà de ce qu'on pense, au-delà de nos prières. On a tous de beaux rêves, Seigneur, on a tous une vision de ce qu'on aimerait faire en tant que personne, en tant qu'Église, mais nous voulons le faire avec toi. Alors merci. Merci pour ce rappel de l'importance des valeurs que tu nous avons en toi. Merci Seigneur pour la vision qui nous permet d'atteindre cet objectif à travers la mission. Permets que nous puissions aller de l'avant avec toi et que durant cet été, comme nous l'avons prié tout à l'heure, tu puisses nous renouveler, tu puisses nous rafraîchir cette vision, tu puisses rafraîchir cette mission que tu nous donnes, que tu puisses nous permettre de pouvoir mieux comprendre, saisir ce que tu veux pour nous, afin que par ton nom puissant, nous puissions aller de l'avant, et que par ton nom puissant, des hommes et des femmes puissent être encore touchés. Oui, Seigneur, tu utilises toutes sortes de stratégies, de façons pour chercher le monde qui est prêt à te recevoir. Et nous voulons faire partie, Seigneur, de ce peuple qui se lève, qui remplit la mission que tu nous donnes, d'aller faire des disciples de toutes les nations, de leur enseigner tout ce que tu as prescrit dans ta parole. Alors oui, Seigneur, par ton action, par ton esprit, nous voulons aller de l'avant. Alors merci, Seigneur, pour toutes les personnes ici présentes. Merci pour leur vie, pour leur engouement pour toi, pour leur mission que tu leur as donnée, que ce soit une mission personnelle, dans leur famille, dans leur travail, dans leur lieu où tu es. Merci, Seigneur, pour leur engagement aussi à travers l'Église, pour la mission que tu leur donnes aussi à travers l'Église, que tu puisses continuer de les bénir, de les entourer, de les renforcer dans leur foi, dans les valeurs que tu as pour eux. Et qu'ils puissent continuer, Seigneur, d'avancer les yeux fixés sur toi, comme sur la cible, afin que, Seigneur, ils puissent faire de grandes choses à travers toi. Nous te remercions, te louons parce que tu es grand, tu es bon, et que tu continues, Seigneur, de nous entourer de ton esprit pour avancer, pour te rendre gloire toi seul. Nous, on te loue, on te rend gloire, Seigneur Jésus. Amen. Amen.